J'avais envie qu'on échange plus sur la question du téléphone, puisque tu le disais, bon, tu travailles beaucoup avec les portables. Tu disais au collège, généralement, les portables sont interdits. Comment tu arrives avec ces sujets-là? Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est la question du rapport au téléphone par rapport à l'identité, le rapport au corps. Il se trouve que pour moi, il y a quelque chose de très lié sur l'identité, le rapport au corps et la question justement de l'égalité femmes-hommes, la question voilà, la question de la construction de soi et de comment on se donne à voir à l'autre et à l'adolescent, je trouve ça extrêmement pertinent de pouvoir le questionner à travers cet outil-là. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as une réflexion là-dessus?
C'est indéniable que l'usage du téléphone et de l'image de soi dans les interactions directes entre les personnes est quelque chose qui est très présent et du coup qui bien sûr fait partie de la construction de soi de chaque personne. En fait, sur le téléphone, il y a deux choses, c'est-à-dire que toute cette question de l'image de soi, du fait de cet outil et de son réseau, tout ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont difficiles à travailler explicitement par des adultes. Parce que, en fait, moi, j'ignore à peu près tout de ce qui leur arrive aux adolescents. Et du coup, c'est pour autant, peut-être pourrais-je leur apporter des éclairages sur des choses, je ne sais pas, peut-être. Mais encore faudrait-il que j'aie des clés pour y comprendre quelque chose à ce qui leur arrive. Et en fait, souvent, il y a des discours un peu normatifs, justement, sur les réseaux sociaux et tout ça. L'usage des téléphones, c'est pas bien. Le temps sur les écrans, c'est pas bien, etc. Mais au fond, ça dépend ce qu'on fait avec cet écran. En fait, c'est pas ni bien ni mal, c'est comme tout. Et puis, en plus, chacun peut faire des choses très différentes. Il n'y a pas forcément de jugement à porter. Donc, après, il y a la question de l'addiction, tout ça. Donc, il y a plein de sujets qui se mélangent sur lesquels. Je crois que si on veut apporter quelque chose, il me semble, hein, sur ces questions d'identité, de rapport au corps et des rapports de domination aussi qui peuvent s'opérer dans le cadre de ces échanges dont les téléphones portables sont l'interface, on va dire, centrale, moi je crois que là, il faut plutôt mettre des mots plutôt que des images, justement. C'est-à-dire qu'il faut peut-être parler des images sans forcément les montrer. Être à l'écoute, dans je ne sais pas trop quel type de dispositif, sans être intrusif, mais plutôt de mettre en place des espaces de parole sur les images. Ça, moi, dans mon travail, et notamment comme je fais faire beaucoup de films à des personnes, consacre autant de temps à la fabrication des images que à regarder les images ensemble. Parce que c'est là, c'est en regardant les images et en les confrontant au regard des autres, etc., que finalement, on va se rendre compte de ce qu'elles nous font, pour le dire vite. C'est pas en les faisant, on se rend pas compte, on n'a pas la distance, en fait. C'est en les regardant ensemble, en voyant ce qu'elles font aux autres, en ayant justement osé de faire un truc soi-même, et puis en fait, c'est pas jugé par les autres parce qu'on a un cadre bienveillant, etc. Du coup, ce moment de regarder ensemble et de parler ensemble des images, ça me semble vraiment important parce que le langage parlé, il y a le langage des images, mais pour moi, il n'y a pas d'opposition, il y a complètement une complémentarité, une co-construction de nous. C'est pas de dire il y a que les images. En fait, il y a les mots et les images aujourd'hui. Avant, il y avait peut-être moins les images. Et du coup, je crois qu'il faut les articuler. Et peut-être que faire un travail sur l'image où on ne regarde pas d'image, mais où juste on parle des images qui nous ont touchés, qui nous ont blessés, etc. Ou que sais-je, si tu veux, d'imaginer des petits dispositifs d'écoute et de parole autour des images et autour de ce qui se passe, de ce qui leur arrive. Mais il faut vraiment quelqu'un en qui il fasse confiance, si tu veux, pour ouvrir à ça. Je pense que c'est peut-être une bonne manière de travailler sur les images, tu vois. Et j'ai rien contre le fait de faire des images avec les téléphones portables, et je le fais beaucoup. Et du coup, moi, si tu veux, quand je fais ça, c'est plutôt faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien avec son outil du quotidien. Donc, ça permet de se décaler un petit peu. Mais au fond, je suis pas sûr que ces actions de fabrication d'images avec les téléphones éclairent tant que ça. Avant, je croyais que ça pouvait éclairer les pratiques quotidiennes des gens. Je crois pas trop maintenant. Je crois que ça leur permet d'avoir une pratique intéressante, démocratique, créative, de s'exprimer, de prendre confiance en eux, etc. Oui. Et on utilise le téléphone comme on utiliserait un crayon, enfin un stylo. On met pas une symbolique particulière dans le stylo. On peut faire plein de trucs différents avec un stylo. Il me semble que le téléphone est devenu suffisamment banal pour qu'on puisse l'utiliser à différentes choses, mais je crois plus que ça va changer leur pratique au quotidien avec le téléphone, comme j'ai cru au début. Mais par contre, là où je te rejoins complètement, c'est que ça me semble vraiment intéressant, ne serait-ce que pour faire du lien et mieux comprendre ce qu'ils vivent, ça me semble vraiment intéressant, et là, d'écouter. Parce qu'on a des jugements qui sont basés sur aucune réalité, et il y a quand même beaucoup l'espèce d'image d'épinal que les jeunes seraient inconscients de ce qu'ils font, qu'il faudrait les aider, que s'ils sont en danger et tout. Alors qu'en fait, ils ont plein de connaissances de leur pratique. Ils ont aussi des endroits aveugles comme nous. Mais c'est faux de croire qu'ils comprennent rien à rien à ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Enfin, c'est même bizarre de penser ça des jeunes. Et du coup, apprendre d'eux, c'est-à-dire, et sans du tout de démagogie, si tu veux, mais qui nous enseignent sur ce qu'ils vivent, moi, ça me semble important. Et ça, je le sais parce que je l'ai moi-même vécu quand j'étais au collège. Je voyais à quel point il y avait une violence systémique entre les personnes et des luttes de pouvoir dans les groupes d'élèves, si tu veux, des groupes d'adolescents. Et je ressentais à quel point les adultes n'avaient, en tout cas, j'avais l'impression qu'ils n'avaient aucune clé et qu'ils n'étaient d'aucune aide, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'autarcie, si tu veux, de système de violence entre les adolescents, et que les adultes ne savaient même pas ce qui s'y passait, en fait. Et que du coup, alors que l'adulte a besoin de lui pour t'aider, quand t'es ado, c'est normal, enfin, je veux dire, t'as besoin de l'adulte, quoi, t'es encore dans l'enfance. En fait, je sentais qu'il ne pouvait rien faire parce qu'il n'y comprenait rien. Et du coup, moi, je me mettais plutôt de côté. Et du coup, je peux imaginer des jeunes avec lesquels je travaille aujourd'hui qui ont aussi ce sentiment qu'ils vivent des choses, ils se débrouillent entre eux, etc. Et c'est pas évident, mais ils savent que de toute façon, les adultes, ils y comprennent rien et qu'ils sont loin de leur réalité, en fait, si tu veux. Comme s'il y avait deux réalités. Et donc, il me semble qu'en tant qu'adulte, il me semble que et en tant qu'adulte éducateur, on est tous éducateurs des enfants, parce que même dans la rue, on est confronté à des enfants, et c'est nous les adultes et les enfants, c'est les enfants. Donc tout adulte a une fonction éducative, je pense, dans toute situation de la vie. Et du coup, c'est un peu de notre responsabilité d'essayer de comprendre sans juger, quoi, et d'apprendre sur leur vie. C'est pas apprendre au sens, mais d'apprendre, voilà. Et encore une fois, sans être intrusif.